À l'écoute des récits, il est 22h ici à Paris, 20h en temps universel.
Loïc Bussière.
Bonsoir à tous et bienvenue dans votre journal en français facile, journal que je vous présente en compagnie de Zéphirin Quadio. Bonsoir Zéphirin.
Bonsoir Loïc, bonsoir à toutes et à tous.
À la une de cette édition, une injection chaque année, comme pour la grippe, c'est ce que prévoit le patron de Pfizer contre un Covid-19 qui pourrait ne pas disparaître de sitôt. On y revient dans un instant.
Et puis le Premier ministre japonais reçu par Joe Biden, qui attend de ce dernier qu'il prenne position face à la Chine. Pékin, qui reste un partenaire économique pour Tokyo, ce qui n'est pas sans poser problème, vous l'entendrez.
Enfin, nous reviendrons en toute fin de journal sur une histoire peu ordinaire, celle d'un prêtre italien qui quitte ses fonctions par amour pour une paroissienne.
Le journal en français facile.
Et on débute ce journal avec une question Loïc. Faudra-t-il se faire vacciner tous les ans pour lutter contre le coronavirus?
Et donc faire comme pour la grippe saisonnière, pour certains observateurs, cela ne fait plus aucun doute. C'est le cas notamment des responsables des laboratoires Pfizer qui affirment que les personnes ayant reçu une première dose de leur vaccin auront probablement besoin d'une nouvelle dose d'ici 6 mois, 1 an, et puis sans doute d'une autre injection chaque année. Albert Bourla est le PDG du géant pharmaceutique américain.
Il y a des vaccins comme ceux contre la polio ou contre les pneumocoques pour lesquels une dose suffit pour un adulte. Et puis il y a les vaccins contre la grippe que vous devez renouveler chaque année. Le Covid-19 ressemble plus au virus de la grippe qu'à la polio. Jusqu'à récemment, on ne savait pas combien de temps durait l'immunité. On pouvait l'identifier sur 3 mois. On observe, chez les premières personnes que nous avons vaccinées, une protection forte pendant les 6 premiers mois. Après, l'immunité descend un peu. D'après nos données, je pense qu'il y aura besoin de revacciner. Il faudra évaluer la bonne séquence et à quel rythme, on verra. Une 3e dose sera probablement nécessaire entre le 6e et le 12e mois. Et après ça, une vaccination annuelle. Mais tout cela devra être confirmé. Et ça dépendra beaucoup de l'évolution des variants.
Albert Bourla, le PDG des laboratoires Pfizer, au micro de la chaîne américaine CNBC. Et puis toujours concernant la crise sanitaire et ce dossier de la vaccination, l'Agence européenne des médicaments annonce qu'elle se prononcera mardi sur un autre vaccin américain, celui du laboratoire Johnson & Johnson. Son utilisation est pour l'instant suspendue en Europe comme aux États-Unis en raison de l'apparition de cas graves de caillots sanguins chez certaines personnes vaccinées.
Dans l'actualité de ce vendredi, également, c'est aussi cet appel du président ukrainien pour un sommet à 4 avec Angela Merkel, Emmanuel Macron et Vladimir Poutine.
Et la Russie, à qui Paris et Berlin demandent de retirer ses troupes postées à la frontière ukrainienne. Vladimir Zelensky était à Paris aujourd'hui, où il a été reçu à l'Élysée. Et depuis plusieurs semaines, les affrontements se multiplient entre son armée et les séparatistes pro-russes du Donbass, région de l'est de l'Ukraine, tandis que des milliers de soldats russes ont été déployés à proximité, laissant craindre une opération militaire d'ampleur.
La Russie qui dit par ailleurs voir d'un œil positif l'idée d'un autre sommet, un sommet entre Vladimir Poutine et Joe Biden.
Le président américain a appelé hier à la désescalade avec son homologue russe, à qui il a donc proposé une rencontre sur terrain neutre, et ce alors que les deux pays se livrent à un bras de fer. Ce soir, Moscou annonce l'expulsion de 10 diplomates américains ainsi que de ministres de son territoire en réponse à des sanctions financières de Washington. En cause, une cyberattaque contre les États-Unis que les autorités américaines attribuent à la Russie.
Et puisque l'on évoque le président américain, venons-en à cette rencontre. Rencontre aujourd'hui avec Yoshihide Suga.
Et le premier ministre japonais qui devient le premier dirigeant étranger à être reçu par Joe Biden. La nouvelle administration américaine attend du Japon qu'il s'engage pour un front uni face à la Chine, notamment en cas de crise dans le détroit de Taïwan. La dernière fois que Tokyo a fait une référence à Taïwan dans une déclaration commune avec les États-Unis, c'était en 1969, avant la normalisation de ses relations avec la Chine. Joe Biden et Yoshihide Suga doivent aussi discuter du traitement par Pékin des musulmans dans la région du Xinjiang et de son influence sur Hong Kong. Reste à savoir si le Japon, qui dépend des États-Unis pour sa sécurité, mais aussi de la Chine pour son économie, est prêt à risquer la colère de son voisin Frédéric Charles.
Le Premier ministre Yoshihide Suga approuvera-t-il à Washington une déclaration forte sur Taïwan ? Peut-être, mais en la plaçant dans le cadre de l'alliance Quad, une enceinte de dialogue pour la sécurité en Asie réunissant les États-Unis, le Japon, l'Australie et l'Inde. Le Japon s'inquiète de la présence toujours plus grande de navires chinois en mer de Chine orientale, des manœuvres de forces chinoises autour de Taïwan, dans une région d'importance vitale pour la sécurité du monde. Le Japon se sent aussi directement menacé par le renforcement militaire de la Chine autour des îles Senkaku, administrées par Tokyo, protégées par le traité de sécurité nippo-américain. En dépit de sa constitution pacifiste, le Japon s'est donné le droit de défense collective. Mais en cas de crise militaire dans le détroit de Taïwan, dans quelle mesure le Japon soutiendrait les États-Unis ? À Washington, le Premier ministre japonais se gardera de répondre à une telle question. Frédéric Charles, Tokyo. RFI.
Et puis en bref, 8 morts dans une nouvelle fusillade aux États-Unis.
Un homme a ouvert le feu dans un centre de tri postal d'Indianapolis. La violence par arme à feu meurtrit l'âme de la nation américaine, s'émeut la Maison-Blanche dans un communiqué.
Au Congo, Denis Sassou Nguesso investit aujourd'hui à Brazzaville.
Pour un quatrième mandat à la tête du pays, le président a promis devant une vingtaine de chefs d'État africains de défendre la forêt du bassin du Congo, poumon africain qui fait respirer le monde.
La situation au Yémen et cet appel de l'ONU qui se heurte à la réalité du terrain.
Et l'émissaire des Nations Unies pour le Yémen a exhorté cette semaine les forces en présence dans le pays à accepter le plan de paix qu'il leur a récemment soumis. Demande qui reste sourde au bruit des canons. Les récents combats ont fait près de 100 morts en 2 jours. Des combats qui opposent forces loyalistes et rebelles houthis. Et ces derniers tentent de s'emparer de la ville yéménite de Marib, une localité stratégique, Nicolas Falaise.
Marib est située à 120 km de Sanaa, la capitale du Yémen. Les rebelles chiites houthis contrôlent Sanaa depuis des années, alors que Marib est le dernier bastion gouvernemental dans cette partie nord du pays. Depuis le mois de février, la rébellion houthi est à l'offensive et progresse aux abords de la ville au prix de combats meurtriers. Cet épisode militaire survient dans un contexte particulier. La nouvelle administration américaine veut la fin de la guerre au Yémen, où 6 années d'intervention armée de la coalition commandée par l'Arabie Saoudite ont plongé le pays dans le chaos et la catastrophe humanitaire, mais sans jamais parvenir à faire reculer les rebelles houthis soutenus par l'Iran. Les Nations Unies, de leur côté, ont élaboré un plan qui inclut un cessez-le-feu, de l'aide humanitaire et d'indispensables négociations de paix. Mais pour l'heure, ce sont toujours les armes qui parlent au Yémen.
Nicolas Falaise.
Et on part en Italie pour refermer ce journal pour une histoire peu banale, Loïc.
Oui, elle se passe en Ombrie, au centre du pays, plus précisément dans la ville de Todi, ville où le curé du diocèse vient d'annoncer à ses fidèles qu'il ne célébrerait plus la messe. Jusque-là, rien d'exceptionnel, si ce n'est la motivation de sa décision, fruit de 10 ans de réflexion. Il renonce par amour pour une paroissienne, Al-Nenir.
Ils se marièrent et eurent beaucoup d'enfants. Ainsi pourrait se prolonger la belle histoire de Don Riccardo Cecobelli. Il a achevé sa dernière messe dominicale en prononçant ces mots devant les paroissiens de l'église San Felice du village de Massa Martana. « Mon cœur est amoureux et je veux essayer de vivre cet amour. » Pour annoncer qu'il accrochait sa soutane à un clou, Don Riccardo, charmant brun de 42 ans, était accompagné par l'évêque de Todi, Gualtiero Sigismondi, qui lui a adressé ses meilleurs vœux et a expliqué que les formalités pour qu'il soit rendu à l'état laïque étaient entamées. Don Riccardo a précisé par la suite qu'il avait rencontré une jeune paroissienne, prénommée Laura, il y a 4 ans, mais qu'il n'avait jamais trahi ses engagements d'homme d'église. Depuis, l'ex-prêtre s'est réfugié chez ses parents avec sa dulcinée pour éviter l'assaut des paparazzi. Selon l'association romaine Vocation, l'Italie compte au moins 5000 anciens prêtres catholiques mariés. Anne Lenir, Rome, RFI.
Et ainsi s'achève cette édition de votre journal en français facile. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci Zéphirin de l'avoir présenté à mes côtés.
Merci à vous.